Ça va bien? M'entendez? C'est beau? Excellent. Bon, on a un sujet assez pertinent hein, ce matin. Et justement, nous allons explorer ça ensemble. Et je pense que vous avez été préparé un petit peu avec votre réflexion ce matin. Et si on a du temps, je pensais ça ce matin, si on a du temps, on va prendre du temps justement dans les petits groupes de trois, peut-être pour des temps de partage et prière ensemble, suite à vos préparations de ce matin. Mais allons dans notre sujet. Mais avant de lire le passage, j'aimerais ça aussi recommencer au commencement d'Histoire avec Joseph, dans Genèse chapitre 37. On va demander aussi quelques lecteurs aussi de m'aider parce que j'aurai besoin de ma voix aujourd'hui là. Mais remettons ces moments entre les mains du Seigneur aussi. Merci Seigneur de nous accorder ce temps ensemble. Nous allons regarder un sujet très pertinent pour nous, pour notre monde. Seigneur, pour notre Église, pour les jeunes adultes, pour les ados, pour les grands, pour les adultes plus avancés en âge aussi. C'est des sujets très pertinents pour nous. Donc, Seigneur, accompagne-nous. Donne-nous beaucoup d'écoute. Sensibilise nos cœurs aussi au travail que tu fais dans nos vies. Aide-nous à vraiment être préparés pour le combat qui est devant nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Et j'aurais besoin de quelqu'un à me chercher un verre d'eau aussi. Donc, peut-être quelqu'un peut faire ça pour moi. Donc, on va commencer en lisant chapitre 37. Donc, ce n'est pas sur l'écran. Et juste pour nous remettre dans le contexte de l'histoire de Joseph, donc, je demanderai à quelqu'un de lire le chapitre 37 pour nous. S'il vous plaît, quelqu'un qui peut nous lire le chapitre 37. Et là, on reprendra avec le chapitre 39, s'il vous plaît. Qui a une bonne voix qui peut lire ça pour nous, là? Vas-y, vas-y, très bien. Mets-toi debout, là, pour qu'on entende bien, là. Oui.
Et Jacob demeura dans le pays de Canaan, à Potiphar, officier de Pharaon, chef de guerre.
Merci beaucoup. Donc, ça nous remet dans le contexte de l'histoire de Joseph. On comprend pourquoi il se retrouve en Égypte, auprès de Potiphar. Et là, on va prendre quelqu'un d'autre va lire, et on va avoir sur l'écran cette fois-ci le chapitre 39. Donc, s'il vous plaît, quelqu'un, un nouveau lecteur. Donc, quelqu'un peut se mettre debout puis lire. Merci beaucoup. OK, on peut arrêter juste là, parce qu'on ne commencera pas la prochaine partie de l'histoire. Donc, voilà, on est dans l'histoire de Joseph, une histoire très mouvementée, n'est-ce pas? On va voir davantage un peu toute la dimension de son histoire de famille ce soir. Et on va voir que, justement, Joseph devait conjuguer avec, on peut dire, une famille dysfonctionnelle, n'est-ce pas? On entend beaucoup parler de familles dysfonctionnelles, là. Et je pense que Joseph venait justement d'une famille très dysfonctionnelle, et sur beaucoup de points. Et on va voir comment Joseph a dû conjuguer avec cet arrière-plan-là afin d'entrer, il fallait qu'il prenne le chemin de restauration afin d'entrer dans le projet de Dieu pour sa vie. Mais ce matin, on arrête nos regards sur cette histoire de Joseph et Potiphar, et comment il a réussi à naviguer cette tentation, puis en sortir victorieux. Mais il faut dire quand même, prochain dépôt, là, que c'est un peu une histoire à l'envers. Parce qu'on voit qu'il y a une femme qui essaie de séduire l'homme, mais on voit que la vaste majorité des histoires bibliques, c'est l'inverse. C'est l'homme qui va séduire la femme, qui se sert justement de sa force, de son privilège souvent dans les sociétés patriarcales, pour avoir ce qu'il voulait auprès des femmes. Donc, on a plusieurs exemples dans la Bible. Alors, on a l'exemple de Samson et Delila. Voici l'exemple d'un homme. On pourrait passer beaucoup de temps à regarder juste l'exemple de cet homme-là qui avait ses désirs complètement déréglés, ses désirs sexuels qui étaient hors contrôle dans sa vie, la violence qui était hors contrôle dans sa vie, puis finalement qui a mené à sa destruction, l'histoire de Samson. Et on a aussi l'exemple de David et Bathsheba, n'est-ce pas? On voit qu'il voyait la femme qu'il voulait, donc il s'est servi de son autorité, de son pouvoir pour avoir la femme d'un autre. Et toute l'histoire par après aussi de complot, de meurtre et de cacher tout ça, là, c'est une histoire très, très sobre, très sombre. Mais on voit que souvent, on voit cet exemple-là d'abus ou de séduction de la part de l'homme. On a l'exemple d'Amnon et de Tamar. Amnon qui prend un peu le chemin de son père, n'est-ce pas? Qui est attiré par sa sœur, Tamar, qui a tout un plan pour la séduire, puis coucher avec elle et tout ça, puis toute la souffrance qui en découle. Cette histoire-là, incroyable. Et on voit qu'on a ces exemples dans la Bible, justement, qui nous font trembler, parce que c'est des histoires, justement, de désirs sexuels, de convoitises déréglées, là, qui aboutissent à des gestes, à des viols, à de l'adultère, à du meurtre. Puis on sait que quand nos désirs sexuels ne sont pas canalisés dans la bonne direction, ça risque, justement, d'avoir des séquelles de destruction inimaginable. Puis même, on pourrait chacun de nous justement raconter les histoires que nous connaissons, justement d'histoires de désastreuses de gens qui ont poursuivi leur convoitise jusqu'à la destruction. L'exemple de le roi de Perse avec Esther et tout ça. Donc, on voit cet exemple-là d'un homme dominant qui cherchait les femmes les plus belles qu'il pouvait trouver, etc. Donc, on voit que surtout dans la Bible, ces images-là de l'homme qui prend son pouvoir pour avoir ce qu'il voulait auprès des femmes. Et je pense que le mouvement MeToo là, qui existe là, les femmes essaient de faire valoir justement cet abus-là de la part des hommes, ce privilège que l'homme exploite la femme, etc. Et on voit que c'est un problème réel qui dure jusqu'à nos jours. Mais, notre histoire, et on a même une histoire dans la famille de Jacob que peut-être vous connaissez, l'histoire de Dina. Et c'est une histoire qui nous fait aussi trembler, là. Dina, la fille de Léa, Léa avait donné à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le Hévien, qui gouverna la région, la remarqua. Il l'enleva et coucha avec elle en lui faisant violence. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob, en tomba amoureux et toucha le cœur de la jeune fille par ses paroles. Donc, ce n'était pas juste le viol, mais c'était aussi la séduction par après qui a suivi. Il a dit à son père, Hamor, « Obtiens-moi cette jeune fille pour femme. » Or, Jacob avait appris que sa fille Dina avait été déshonorée. Et vous connaissez l'histoire peut-être, hein? Les frères l'ont appris aussi. Ce qui a causé un drame imaginable, le meurtre de tous les hommes de la ville, etc. Mais c'est une histoire macabre. Mais d'où vient cette histoire-là? Ça vient justement de ce viol de sa sœur. Et essayez de penser un petit peu à Joseph, qui était enfant à l'époque, qui observe tout ça, qui voit justement les retombées de ce viol de sa sœur, de la violence et meurtre de ses frères. Et Joseph était témoin de tout ça. Il n'était pas impliqué parce qu'il était juste enfant à l'époque. Mais voilà que les expériences de vie de Joseph, qui ont quand même eu un impact sur sa vie, on peut dire que Joseph savait où allait, justement, comment les désirs sexuels déréglés pouvaient causer de la destruction. Donc, Joseph avait été témoin de ces choses, de cette destruction-là, dans la vie de sa propre sœur. Et on peut dire, par exemple, on peut dire, mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles Joseph était très sensible à l'importance de ne pas donner place à des désirs déréglés dans sa propre vie à lui. Bon, on va regarder l'exemple de Joseph sous deux angles. Comment naviguer le combat. Donc, on va voir l'exemple négatif de Potiphar qui prenait le voie justement de la convoitise, qui poursuivait la voie de la convoitise jusqu'à son aboutissement. Puis on va voir justement l'exemple de Joseph dans la deuxième partie de notre avant-midi. Qu'est-ce qu'il a fait lui pour livrer le combat puis avoir la victoire? Donc, on va regarder les deux exemples. Et donc, il faut dire que si la sexualité, la convoitise a été une force de vie et de destruction que nous lisons dans l'Ancien Testament, comme certaines histoires que je viens de vous raconter. Et on voit encore aujourd'hui, là, c'est encore la même chose. Ça n'a pas changé, n'est-ce pas? La sexualité est encore une force pour le bien. Je vous ai montré les photos de mes petits-enfants, là. Ça, c'est le fruit de la sexualité, n'est-ce pas? C'est le fruit de l'amour, ça. C'est des désirs canalisés dans la bonne direction qui donnent un fruit extraordinaire. Mais aussi, si on canalise nos désirs dans la mauvaise direction, par la convoitise, par la tromperie, l'adultère, on sait que la dévastation est inimaginable. Et on le voit également. Et une autre chose que je veux souligner, c'est que notre sexualité et notre spiritualité est profondément reliées ensemble. Même il y a un auteur qui a dit, c'est Malcolm Muggeridge qui a dit que la sexualité est la spiritualité d'une époque matérialiste. Je répète là. La sexualité est la spiritualité d'une époque matérialiste. Donc, dans une société comme la nôtre, qui a perdu ses points de repère spirituels, on cherche une expérience de transcendance, une expérience affective qui nous transporte. Et la sexualité devient le dieu de notre époque. Et les gens vont courir après ce dieu ou cette déesse, si on veut, pour avoir une expérience de transcendance, si on veut, entre guillemets, qui nous apporte quelque chose, mais qui essaie de combler un vide spirituel que l'on vit. Mais on essaie de combler le vide spirituel avec les expériences sexuelles, mais pourtant, on sait que ça ne peut pas vraiment combler le vide dans notre cœur. Donc, cette force que Dieu met en nous, la force de la sexualité, quand elle est canalisée pour le bien, il a un pouvoir créateur et merveilleux. Mais quand elle est canalisée pour exploiter ou dominer, les résultats sont désastreux. Et ils sont désastreux également pour notre vie spirituelle. Comme on va voir justement que si nous donnons place à la convoitise et surtout à la pornographie, on va parler spécifiquement de la pornographie, nous allons subir justement des séquelles profondes sur notre vie spirituelle et notre marche avec Dieu. Donc, on va regarder ces choses ce matin. Donc, commençons en regardant un petit peu notre adversaire, donc le combat dans lequel nous trouvons. Et vous avez justement des notes sur votre page, certaines observations qu'on peut faire sur le combat qui est devant nous. Donc, le combat, le fléau dans lequel auquel nous faisons face dans notre... justement, l'image de fléau est quand même intéressante, n'est-ce pas? Parce qu'on entend beaucoup parler du coronavirus, n'est-ce pas? Et on entend un fléau, c'est quoi? On attrape ça un peu partout, là. Il faut faire attention, là, parce que ça se promène, là. Ça se propage, là. Mais le fléau, disons, de la pornographie est beaucoup plus désastreux que le fléau de le coronavirus, là. Donc, on dit que le coronavirus tue 3% de ceux qui sont affectés par... Mais la pornographie et la convoitise sexuelle, là, c'est peut-être 80%, là, de personnes qui meurent de cette maladie-là. Il y a quelques personnes qui en échappent, là, mais la destruction, là, est inimaginable. Mais le fléau, Donc, une recherche Google sur 4 est pour la pornographie. Imaginez-vous là. Une recherche sur 4 est pour la pornographie. Un tiers de tout ce qu'on trouve sur l'Internet, c'est le terrain de la pornographie. Un tiers. Et même, c'est la pornographie qui alimente toutes les recherches en graphisme et tout ça, d'avoir les images plus claires, les couleurs plus riches et tout ça. Donc, même l'industrie de la pornographie alimente beaucoup l'Internet. La glissade mesurable vers la violence et la perversion. Donc, on voit que on appelle la pornographie « soft », n'est-ce pas? Puis la pornographie, exagérée, là. Puis le « soft », là, ça, ce n'est plus là, là, mais c'est le « dur », là. C'est la pornographie de violence, de perversion qui prend de plus en plus de place sur l'Internet aussi. C'est une industrie qui vaut plus de 100 milliards, qui génère plus de 100 milliards de dollars par année. C'est incroyable, hein? C'est quasiment le PIB d'un pays, là. Donc, l'âge moyen d'être exposé à la pornographie, et ça m'a beaucoup secoué quand j'ai lu ça, là, c'est 11 ans. Mon petit-fils aîné, là, 10 ans, là. Donc, peut-être, ça, pour certains, ça commence plus jeune, n'est-ce pas? Quand les enfants ne sont pas bien encadrés, tu vas à l'école avec tes enfants vont à l'école... un de leurs amis, son téléphone intelligent, il a déjà des photos dessus. Je veux dire, ça commence très jeune, non? Mais c'est des choses, juste un petit c'est des observations incroyables que nous avons devant nos yeux, là. Donc, le combat dans notre contexte moderne, les retombées. Puis on va justement aller plus en profondeur quand on regarde l'exemple de Mme Potiphar aussi, les retombées de la convoitise, etc. Mais une désensibilisation. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on peut observer avec le temps, avec les années, on voit de plus en plus de pornographie sur... ça devient, on dit en anglais, « mainstream ». Donc, ça devient normal, tu sais. C'est comme à tous les jours, là. Puis le Québec a toujours été... la province la plus avancée, entre guillemets, là, la plus ouverte, la plus libérale en ce qui concerne justement les images pornographiques à la télévision. Donc, mais ce qui arrive avec l'exposition à ces images-là, c'est qu'il y a une certaine désensibilisation. Et même au point que, dans les médias, on rit un petit peu de la pornographie, là. J'écoutais une émission à la radio... il n'y a pas longtemps, là. Il y a peut-être un mois de cela, et c'était justement les personnages qui en parlaient, et ils riaient un peu de ça, puis ils parlaient justement des parents qui vont aider, qui vont accompagner leurs jeunes à comment naviguer les sites à l'Internet, là. Justement pour aider leurs enfants à ne pas aller sur les sites, tu sais, là, terrible, là, tu sais. Mais j'ai dit, mais voyons donc, là. J'ai dit, j'en pouvais plus, là, tu sais, c'est incroyable, là. Où les parents commencent à former leurs enfants, là, pour consommer de la pornographie, là. J'en revenais pas. C'était incroyable. Et on voit cette désensibilisation. Et même on voit qu'avec l'exposition à la pornographie, ou l'exposition à la perversion, qu'est-ce qui arrive, c'est que on devient insensible à ça. T'sais? C'est comme si c'est normal, ça ne fait plus rien, ça fait partie un peu des médias de nos jours. Puis on voit qu'il y a une certaine désensibilisation qui arrive, même pour nous en tant que chrétiens. On voit deuxièmement, malheureusement, des comportements addictifs. Puis on joue avec le cerveau, on va regarder ça un peu plus loin aussi. Mais justement, c'est vraiment mesurable que la consommation de la pornographie, lorsqu'on poursuit la convoitise, on peut développer très facilement des comportements addictifs, où ça devient des dépendances dans nos vies. Tout comme de l'alcool ou de l'addiction au jeu, ça peut devenir une addiction qui contrôle ta vie. Puis on va regarder ça aussi un peu plus loin. Et troisièmement, on voit la commodification du corps humain. Et donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le corps devient une commodité à consommer, là. Donc, c'est un peu comme, vous savez, un peu les cannibales, c'est quoi l'image que croyaient les cannibales, là? Il y a encore certains cannibales dans le monde, là. Ils croyaient qu'en mangeant la personne, tu vas prendre la force de la personne en toi. C'était ça, c'était pas juste qu'ils faisaient ça pour le fun, là. Ils pensaient qu'en mangeant la personne, tu vas imbiber la force de la personne. Et la sexualité est un peu comme ça. Il y a cette soif de communion, mais quand ça devient l'exploitation, tu penses que tu vas alimenter ta vie avec ça. Et ça devient comme et vous savez que ceux qui sont addicts, ceux qui sont dépendants de l'alcool et tout ça, ils pensent que c'est leur vie, là. Ils pensent que ça devient leur identité même. L'alcool ou cette pratique-là devient leur identité. Ils pensent que ça nourrit leur être de façon très malsaine, n'est-ce pas? Et les addictions, c'est comme ça. Puis quand le corps humain devient une commodité à consommer, c'est désastreux pour l'être humain, c'est désastreux pour la personne qui adopte aussi cette vision-là. Et parce que, bibliquement, le corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le corps est le temple. Et notre sexualité, c'est le lieu saint du temple. Le lieu saint. Et nos parties sexuelles, c'est comme le lieu très saint du temple. Et tout comme dans l'image du temple, c'est pas n'importe qui va dans le lieu très saint, là. Ce lieu-là est réservé pour la personne, là. Et moi, je dirais de la même façon, notre sexualité est réservée pour la personne que Dieu a choisie pour nous, là. Et juste cette personne-là a le droit d'accès à ce lieu très saint de ma vie. Mais lorsque le temple de Dieu est ouvert, lorsqu'il n'y a plus de lieu saint, là, c'est une catastrophe pour notre humanité. Et ce qu'on voit un peu avec la pornographie. Donc, mon corps est mon incarnation. Mon corps est l'enveloppe de mon esprit. Et je ne peux pas abuser de mon corps et tout en pensant que je vais épargner mon esprit. Ce que je fais avec mon corps influence mon esprit. Ce que je fais avec mon esprit influence mon corps aussi. Donc, il y a un va-et-vient entre le corps et l'âme. Même bibliquement, les grands poètes chrétiens, ils ont adapté cette vision que le corps est le cheval et l'âme est le cavalier. Intéressant, hein, comme image, là. Le corps est le cheval et l'âme est le cavalier. Et on a besoin du cheval puis on a besoin du cavalier. T'sais. Il y a cette relation entre les deux. Mais quand nous commençons à voir le corps humain ou le corps de la femme comme une commodité à consommer, ce qui est vraiment derrière la pornographie, n'est-ce pas? Que le corps de la femme que je ne connais pas va alimenter un désir sexuel en moi et que justement ce désir-là, comblé dans ma vie à moi, va rencontrer un certain besoin dans mon cœur, je deviens un consommateur de l'être humain, là. Je deviens un cannibale. Et les cannibales, ils ont toujours de plus en plus soif. Hein? C'est un peu comme l'image de vampires. Hein? Vous savez, les vampires, là, vous avez peut-être lu les histoires. Là. Les vampires, c'est grave, là, parce qu'ils ont besoin de boire du sang. Là. Et moi, je dirais, la soif de la pornographie, c'est comme un désir de vampirique là, qui existe dans l'être humain. Mais c'est une image qui fait trembler un peu, là. Mais cette idée-là du temple, on va revenir là-dessus, là. Et ce qui était la catastrophe pour le peuple d'Israël, c'est lorsque les païens ont pénétré dans le temple, puis ils ont saccagé le temple. Et ils ont établi l'abomination dans le temple. Mais je vous dis, hein, je vous partage ces images choquantes parce que c'est vrai, là. lorsque la pornographie s'installe dans la vie de quelqu'un, il est en train d'installer l'abomination dans le temple. Il faut purifier le temple, mes amis. Il faut purifier le temple pour que Dieu prenne sa demeure dans le temple. Et on voit que c'est tellement important pour nous, là. Donc, qu'est-ce qui arrive? On va revenir là-dessus un peu, là, quand on regarde Mme Potiphar, là. Mais le prochain point, la perte de concentration et de... Attends un petit peu, là, je vais juste... Et de paralyser la volonté. Donc, on voit qu'il y a des retombées. Dans n'importe quelle addiction, là, lorsque la personne est dépendante de telle ou telle activité-là, que cette dépendance-là la contrôle, il y a une perte de capacité et de volonté. C'est comme la personne est prise, là. Elle devient esclave de son désir. Donc, il y a une soif, le prochain point, une soif intarissable. Et on voit que ceux qui prennent le chemin de la convoitise, la pornographie, ils ont soif des images de plus en plus violentes, explicites, pervers et tout ça. Puis l'Internet alimente cette glissade vers la destruction. Puis on peut parler également d'une perte d'équilibre personnel aussi qui en suit. Voilà, c'est sobre, hein? Et il y a une sagesse ancienne, le prochain diapo, qu'il ne faut jamais oublier. Une des choses que vous pouvez faire justement pour vous fortifier dans le combat, c'est de lire souvent les proverbes, n'est-ce pas? Les livres de sagesse dans la Bible, les livres au cœur de la Bible, au centre, les proverbes. Lisez souvent les proverbes. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Regarde là. Je peux vous dire, avec expérience là, quelle joie d'aimer quelqu'un pendant 40 ans. Puis, je peux vous dire, elle est encore ma joie, mon épouse là. Et fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'environnent, t'enivrent toujours, et que tu sois sans cesse épris de son amour. Mémorisez ce verset-là, vous, s'il vous plaît, là. Et parce qu'il faut avoir des yeux pour ton épouse, là. Il faut avoir des yeux pour ton époux, là. Et que fait la pornographie, là? Ça nous donne des yeux pour un étranger, là. Et regarde, pourquoi, mon fils, t'amouracheras-tu de la femme d'autrui? Pourquoi embrasseras-tu la poitrine d'un inconnu? Donc, la pornographie n'existait pas dans le temps, là. Mais finalement, l'attrait de la pornographie, c'est les femmes inconnues, c'est la femme sans visage, là. C'est la femme sans âme, c'est le corps humain, là, qui attire. Mais c'est un inconnu, là. Et si on embrasse la poitrine d'un inconnu, là, on va perdre la capacité d'embrasser et d'aimer la femme qu'on a. C'est une des grandes tragédies de la pornographie, là. Même dans les mariages, là, surtout même, l'homme qui consomme la pornographie, sa femme n'aura plus la capacité de l'attirer, là. C'est grave, hein? Il perdrait sa capacité d'aimer son épouse. Parce qu'il embrasse la poitrine d'un inconnu, là. C'est grave, là. Et c'est une catastrophe pour les mariages. Puis il y en a tellement de mariages qui ont été détruits de cette façon-là, je vous dis. Hein. Puis je vous mets en garde, là. Je vous mets en garde. C'est très, très important pour vous et pour votre vie future, là, votre mariage aussi futur. Donc, pornographie, le cerveau, là. Allons plus loin, là. Donc, à ceux qui étudient le sujet, je ne suis pas expert là-dedans, mais j'ai fait un peu de lecture quand même. La nature plastique de notre cerveau, surtout le cerveau d'un adolescent en pleine formation. Donc, quand le cerveau est alimenté par des images pornographiques ou des expériences sexuelles précoces, la dopamine est créée dans notre cerveau, là. Donc, la dopamine nous donne un sentiment de soulagement, de satisfaction. Et deuxième point, là, ce qui arrive, c'est que le cerveau finit par associer, par exemple, la consommation de la pornographie, jointe à l'orgasme, la masturbation peut-être, on commence à créer une voie neurologique, là, un stimulus-réponse là, dans le cerveau. Là. Donc, la pornographie génère cette expérience-là, ça crée la dopamine, et il y a une satisfaction intérieure que l'on peut vivre. Et plus cette voie est intégrée dans ma vie, plus j'aurai de la difficulté en être libéré. Et ça peut même devenir une addiction. Là. On se retrouve facilement sur cette voie-là. Prochain point, là. Les comportements addictifs qui se développent. Et je vais vous parler d'une anecdote un peu personnelle, d'accord? Comment j'ai grandissé, la pornographie n'était pas accessible comme elle est aujourd'hui. On ne trouvait pas d'image à la télévision. On a quand même la télévision couleur, là, à mon époque, là. Je ne sais pas si vieux que ça, là. On pouvait trouver des magazines dans les pharmacies, tu sais. Tu pouvais avoir des magazines, puis on voyait les Playboy qui étaient là, tu sais. Mais en tant que jeune adolescent, on a été là, tu sais, on était beaucoup attiré par ces magazines-là qui étaient un peu en dehors de notre portée, là, tu sais. Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai un de mes amis a trouvé une boîte de magazines Playboy, là, tu sais. Et franchement, là, on a pris cette boîte-là, on l'a cachée, puis on est devenu des consommateurs de la pornographie, là. 13 ans, 14 ans. Et joint à ça, je vous parle de façon très personnelle, là, tu sais, il y avait une jeune femme dans le village qui venait d'une famille assez brisée, merci. Puis elle était prête à se déshabiller pour nous, là, tu sais. Donc j'avais la boîte de magazine. La jeune fille, on n'a pas eu de rapport sexuel avec elle, là, tu sais, on n'était pas là, mais tout ça, là, j'étais ado, là, donc qu'est-ce qui arrive à moi? Je comprends maintenant, là, le cerveau là, développe des patterns, là, des patrons, hein, des voies neurologiques qui se développent, là. Et ce qui est arrivé à cause de ces expériences-là, j'étais rodé, là, pour la pornographie, n'est-ce pas? Et arrivé dans les années 90, quand la pornographie commence à paraître à la télévision, l'Internet commence à prendre place, j'ai constaté que j'avais pas de protection. Là. J'avais ces anciennes voies qui étaient déjà rodées dans mon cerveau, dans mon cœur. Je pouvais facilement les reprendre. Et le combat était réel là, pour moi. Donc, je vous parle pas de façon de se détacher, là. Je sais c'est quoi ce combat-là avec la pornographie. Et je sais ce qui m'est arrivé et puis le combat que j'ai dû livrer pour restaurer ma vie à moi. Donc, regardons l'exemple. Ici, on va voir justement, regarde, la deuxième moitié de notre avant-midi sera plus joyeux, n'est-ce pas? OK, donc ne soyez pas trop découragés, là. allons à la prochaine diapo, là. Le chemin qui mène à la destruction. Regarde, je vous mets en garde, hein, parce que je pense que l'avertissement, des fois, c'est important. Même, on a vu le passage en Corinthiens qui a été relu ce matin. Ces exemples-là sont donnés pour nous mettre en garde. Donc, nous avons l'exemple de Mme Potiphar, là, pour nous mettre en garde. C'est un avertissement pour nous. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une femme, là, parce que les femmes ne sont pas à l'abri de ces choses, hein. On dit que la moitié des hommes... des consommateurs de la pornographie, c'est 50% des hommes consomment la pornographie. Je pense que c'est peut-être plus élevé que ça. C'est des gens n'ont pas été honnêtes, là. Mais 20% des femmes, là. 20%, là. C'est quand même assez marquant, là. Donc, Mme Potiphar et le chemin tortueux de la convoitise. Donc, vous avez la liste qu'on va voir, puis les son cheminement, là, c'est un cheminement vers la destruction. Finalement, la beauté humaine, l'attraction sexuelle, on va développer chacun de ces points-là. Le désir qui mène à la fantaisie qui aboutit à la passion déréglée, la perte de balises et de bon sens. Un comportement malsain se développe et se traduit en plan d'action. Le mensonge, l'accusation et la fuite de responsabilité qui est finalement l'aboutissement de ce chemin-là de destruction. Puis on va regarder son exemple. Donc, le premier exemple dans sa vie. La beauté humaine et l'attraction sexuelle. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après, c'était vraiment la femme de son maître, porta les yeux sur lui et lui dit, « Couche avec moi. » Donc, un bel homme, une belle femme, attire le regard. Et c'était, moi, on peut dire aussi que c'était plus que son visage, là. Joseph était un bel homme, à l'intérieur aussi. C'était un homme intègre, un homme qui se présentait bien, un homme de confiance. Donc, la beauté de Joseph n'était pas juste une beauté extérieure, c'était aussi une beauté intérieure. Et quand la beauté intérieure accompagne la beauté extérieure, c'est doublement puissant. C'est doublement puissant. Et on voit que Joseph était un homme très attrayant, puis il fallait conjuguer avec son influence sur les autres. Et pour certaines belles femmes, certains beaux hommes aussi, on peut dire, ici, vous devez conjuguer avec votre puissance là, que vous avez là. Et il ne faut pas être naïf là, par rapport à cette beauté-là, puis l'attraction que ça fait là. Donc, on voit ici... Donc, on peut se réjouir de la beauté humaine, de la beauté des belles femmes, de beaux hommes. On peut se réjouir de cette beauté-là. C'est Dieu qui l'a créée. Mais il faut aussi en être conscient, comme je disais, un peu de la puissance de cette beauté-là, de la puissance d'attraction. Je vous parle en tant que pasteur, d'accord? Parce que j'ai été pasteur, un jeune pasteur, comme je vous ai dit hier soir, 25 ans, 26 ans. J'étais pasteur à partir de l'âge de 26 ans, très jeune, trop jeune même. Mais j'étais naïf là, par rapport à ma relation avec les femmes dans mon église, je vous dis. Et souvent, ce qui arrive dans le contexte chrétien, certaines femmes sont peut-être dans des relations avec leur mari ça ne va pas très bien là. Et le pasteur est là pour écouter la femme, pour être attentif à ses besoins, pour prier avec elle. Et la femme commence à dire, « Mais voilà cet homme-là. Il m'écoute. Il est attentif à mes besoins, mais mon mari, il ne l'est pas. » C'est un terrain dangereux, mes amis, là. C'est un terrain très dangereux, là. Mais j'étais complètement naïf. J'étais très naïf. Moi, je pensais que mon cœur était à la bonne place, là. Mon cœur n'était pas à la recherche de femmes, là. Mais dans mon désir, dans ma naïveté, là, j'ai sorti d'un chemin de sécurité, là. Et je remercie le Seigneur que Dieu n'a pas mis sur mon chemin une femme séductrice, là, qui voyait ma naïveté, puis en a profité, là. Je remercie beaucoup le Seigneur, parce que je ne sais pas si j'aurais eu la force pour résister à la tentation. Parce que vous savez, comme je vous ai dit, j'avais des chemins rodés, là, dans ma vie, là, depuis ma jeunesse. Et j'avais aussi quelques difficultés à cette étape dans mon mariage. Donc, si j'avais eu une femme sur mon chemin, comme Madame Potiphar, là, je ne crois pas que j'aurais pu résister, là. Je vous dis honnêtement, là. Parce que à cause de ma naïveté, puis à cause qu'il manquait des choses de ma vie, quand on regardait l'exemple de Joseph, là, comment sa vie était fortifiée, là. Il avait établi justement une fondation solide pour son combat, là. Puis moi, je n'avais pas cette fondation-là, là. Et quand je faisais des fois le bilan de ma vie, là, J'avais justement beaucoup d'invités, beaucoup, un manque de sagesse. Et moi, je pense que dans nos relations humaines, les uns avec les autres, il ne faut pas être naïf. Et quand vous êtes... Et c'est pour ça, même moi, je décourage les relations de prière homme-femme, là. Je décourage ça. Parce que la prière est quelque chose d'intime. Et quand ton partenaire de prière, c'est la femme de quelqu'un d'autre, vous êtes sur un terrain glissant. Mais je vous dis, je ne veux pas décourager la prière, là. Mais je vous dis, il faut être sage. Et je connais une très belle jeune femme, là. Puis elle invite des hommes à venir à l'église, puis tout le monde vient à l'église, là, quand elle les invite. Elle se trouve évangéliste, là. Mais vous savez que l'évangélisation missionnaire, là, ce n'est pas toujours une bonne chose. Hein? Mais c'est une certaine naïveté, là, de sa part. Mais il faut en être conscient que l'être humain, il est complexe, là. Puis il faut veiller sur nos relations les uns avec les autres. Et développer surtout des relations saines. Parce que quand il y a une relation émotionnelle, affective qui se développe avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme, vous quittez un terrain de sécurité. Je vous mets en garde. Hein? J'ai été là. Et Dieu m'a protégé. Mais faites attention. Bon, mais Joseph, il était conscient. Il était sage, là. Donc, on a besoin de développer un guide pour nos relations humaines. Donc, le prochain point, là, la beauté humaine et l'attraction sexuelle. Martin Luther disait ceci, vous avez cette citation, tu ne peux empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire un nid dans tes cheveux, là. Donc, nous ne pouvons pas ne pas avoir de tentations autour de nous, là. De beaux hommes, de belles femmes sont partout. Et avec nos écrans, avec tout ce qu'on voit, on est bombardé de ces choses, de ces oiseaux-là, si on veut. Donc, c'est tellement intéressant. Je faisais une recherche pour des livres audio à télécharger, là. Puis, que faisait l'engin de recherche, là? Il mettait des livres érotiques, là, entre les recherches, là. Mais ça m'a tellement choqué, là. Parce que, mais tu vois, là, un livre sérieux, puis là, tout d'un coup, là, tu vois un livre... érotique, là, mais d'où ça vient, là? Mais c'est la façon, justement, que l'Internet est conçu, là, pour attirer nos regards. Et sans doute, ces engins-là, ils payent pour, justement, mettre la tentation, là, devant tes yeux, là. Soyez pas naïfs, là, c'est là. Mais le chemin qui mène à la destruction, on peut aller jusqu'au le désir qui mène, donc, elle voit le bel homme. Elle est attirée par lui, le prochain, puis les désirs qui mènent à la fantaisie, là. Donc, la fantaisie, c'est notre imaginaire qui joue, n'est-ce pas? Il y en a qui ont un imaginaire très actif, très développé. Je l'ai, moi, là. C'est quelque chose que Dieu m'a donné. Donc, Madame Potiphar, elle commence à créer un scénario dans sa tête, là, n'est-ce pas? Ah, wow, ce bel homme-là. Mais pourtant, il était esclave, là. Elle était la maîtresse de la maison. Lui était esclave. Ça n'avait pas de bon sens, là. Ça ne pouvait pas bien finir, là, cette histoire-là, là. Et même, vous savez que les Égyptiens et les Hébreux ne pouvaient même pas manger ensemble. À cause des lois, les Égyptiens voyaient les Hébreux comme étant les impurs et tout ça. Vous savez, plus tard dans l'histoire de Joseph, quand Joseph se faisait son identité d'Égyptien, il ne pouvait même pas manger avec ses frères parce que c'était des Hébreux. Ils étaient impurs pour les Égyptiens. Donc, elle, là, elle était prête à oublier tout ça, là, parce que, à cause de l'attrait de son regard, la fantaisie qu'elle a. Et le problème avec la pornographie, c'est que ça alimente des faussetés, des fantaisies qui n'ont pas d'allure, qui n'ont pas de bon sens. Comment on dit un bon québécois, là? Mais pourtant, cette idée-là, là, est plantée et alimentée. La fantaisie est alimentée. Donc, voilà. Et même, elle parlait jour après jour. Donc, Il y avait il était bombardé constamment là par cette tentation là, justement qui venait d'elle justement. Et on voit que, on peut dire près de nos jours là, vous êtes vous-même bombardé jour après jour, n'est-ce pas? Vous êtes sur l'internet tous les jours. Vous avez la possibilité d'aller sur les sites tous les jours. Et donc cette idée d'être bombardé tous les jours, Joseph il le vivait là. De cette séductrice qui était après lui. Donc, on va parler de ça, comment il s'est fortifié après. Mais allons plus loin. La fantaisie qui aboutit à la passion déréglée. Donc quand on arrive à ce point-là de la passion déréglée, ça veut dire qu'on commence à aller sur le terrain de l'addiction, où le désir commence à devenir mon identité, où les désirs, je n'ai plus de contrôle de mes désirs, ça devient déréglé mes désirs. Mes désirs deviennent désordonnés au point que je pose des gestes qui n'ont pas de bon sens. Là. Et ça devient une obsession là, pour nous. Vous entendez des histoires là, des hommes, par exemple, qui regardent la pornographie sur l'ordinateur de leur travail. Là. Mais qu'est-ce qu'ils font là, là? Et là, on découvre... La pornographie sur l'ordinateur, puis là, ils perdent leur emploi. Ça devient un scandale dans les médias. Mais qu'est-ce qui animait ces hommes-là? C'était la passion déréglée, là. Et voilà ce qui arrive lorsque la fantaisie alimente des désirs et les désirs deviennent au niveau de l'addiction. Prochain point qu'on voit ici. La perte de balise et de bon sens. C'est comme l'alcoolique qui dépense, qui reçoit sa paye de son travail, puis va aller dépenser sa paye sur la boisson, tout en sachant que sa famille n'aura pas de nourriture. Ça, c'est le comportement addictif, là. Et lorsque nos désirs deviennent déchaînés comme ça, on perd nos balises, puis on n'a pas de capacité. C'est comme, vous savez, un bateau qui n'a pas de balises, lorsque les vagues tombent sur lui, là, il est renversé facilement. Les balises permettent au bateau, justement, de passer par la tempête puis de ne pas être renversé là. Puis on a besoin de balises là. Puis on va parler de Joseph et les balises qu'il avait dans sa vie. Puis si nous perdons nos balises là, nous sommes très vulnérables. Moi j'étais très très vulnérable quand j'étais jeune dans mon mariage là, parce que je n'avais pas établi de bonnes balises dans ma vie. Et si la femme séductrice était arrivée là, j'aurais été emporté là. Mais je remercie le Seigneur que j'avais été protégé par lui, par sa grâce. Le comportement malsain se développe et se traduit en plan d'action. On voit que ce qui est arrivé avec Mme Potiphar, là, elle avait conçu son plan et au point même de peut-être, elle s'est arrangée pour que personne soit dans la maison. Puis là, elle trouvait, puis elle tirait près de lui, tu sais, elle tire son vêtement. Personne dans la maison, donc elle avait trouvé, je pense qu'elle avait orchestré ça, tu sais. Et donc, un plan d'action, là, malsain, un plan d'action qui n'a pas de bon sens. Mais pourtant, dans son addiction, là, dans son obsession, là, elle avait perdu complètement les pédales, là. Mais voilà où, justement, l'obsession peut nous amener. Bon, Jésus a dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettrais pas d'adultère. Et moi, je vous dis, si quelqu'un jette une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc, Jésus n'est pas en train de dire que le regard chargé de désir est aussi grave que l'adultère. Et j'ai entendu déjà certains enseignants bibliques qui ont dit ça, là. C'est pas ce que Jésus dit, là. Jésus est en train de dire, mais d'où vient l'adultère? Ça vient du cœur. Il faut veiller sur l'état de ton cœur. Il faut veiller sur l'état de ton cœur et la convoitise qui mène à l'adultère commence dans le cœur. Commence avec ces désirs-là qui sont désordonnés, qui risquent d'aboutir justement à l'adultère. Donc, le dernier pas dans son chemin vers la destruction, le mensonge, l'accusation et la fuite des responsabilités. Là. Wow! La prochaine diapo, l'esclave hébreu que tu nous as amenés, dit-elle, est venue vers moi pour se jouer de moi. Imagine. Mais quand je me suis mise à crier pour appeler au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi, il s'est enfui dehors. Pur mensonge. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle transfère son péché sur lui. Au lieu de se repentir, elle met le blâme sur l'autre. Vous savez là, j'ai entendu ça là. Il y a des hommes qui blâment leur épouse pour leur addiction à la pornographie là. Elle ne m'a pas donné ce que je voulais. Donc, je devais aller chercher ça ailleurs. Mais voyons, c'est exactement comme Mme Potiphar, hein? Elle dit, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute, là. Elle met le blâme sur Joseph pour sa faute à elle. Mais voilà où ça peut nous amener au point de perdre vraiment notre bon sens, là, de perdre des pédales à tel point que nous sommes même victimes et nous mettons la blâme sur les autres. Pour le péché dans notre vie à nous. Vous savez, les gens qui sont dépendants de l'alcool, les alcooliques, hein? Peut-être vous avez connu quelqu'un qui est alcoolique, c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est jamais de sa faute, hein? C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, là. Et l'addiction à la pornographie, puis l'addiction à la convoitise, risque de nous amener là aussi, où on va justifier ce qu'on fait, au point même de mettre le blâme sur les autres. Au lieu d'accepter nos propres responsabilités. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. En tout cas, je voulais vous faire part de ce chemin-là. C'est sombre, c'est sobre. C'est pas un chemin... c'est pas un beau chemin. Hein? Et la destruction qui attend... qui nous attend à la fin de ce chemin-là est quelque chose de désastreux. Là.